Depuis maintenant près de 2 mois, le Moyen-Orient est plongé dans une guerre ouverte entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Après des semaines de frappes intenses, d'assassinats ciblés et de ripostes massives, un cessez-le-feu fragile a été conclu le 8 avril. Mais dès le 13 avril, face à l'échec des négociations directes à Islamabad entre le vice-président américain J.D. Vance et les émissaires iraniens, Donald Trump a imposé un blocus naval américain sur les ports iraniens. Objectif, asphyxier économiquement le régime et empêcher tout passage de navires vers ou depuis l'Iran tout en maintenant officiellement la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. L'Iran de son côté n'a jamais vraiment rouvert le détroit. Téhéran continue de contrôler le trafic, d'imposer éventuellement des droits de passage exorbitants et de menacer les navires. Le point culminant est survenu le 22 avril. Les vedettes de la garde révolutionnaire islamique, les Pasdaran, ont attaqué plusieurs cargos dans le détroit d'Ormuz. Deux d'entre eux, l'Epaminondas et le MSC Francesca, ont été endommagés et escortés de force vers les côtes iraniennes. Un troisième a essuyé des tirs mais a pu poursuivre sa route. De leur côté, les Américains auraient réussi à faire demi-tour à plus d'une trentaine de navires. Certains autres seraient passés, peut-être éventuellement arrêtés plus loin, et deux ont été arraisonnés. Les attaques iraniennes qui se maintiennent dans le détroit d'Ormuz visent clairement à faire pression sur Washington. L'Iran exige la levée du blocus américain, tandis que les États-Unis, eux, refusent tout compromis tant que Téhéran n'aura pas présenté une proposition unifiée acceptable par toutes les factions du régime. Parallèlement, en effet, les tensions restent extrêmes dans l'ensemble de la région, notamment au Liban. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, entré en vigueur le 16 avril, est régulièrement violé. Les deux camps s'accusent mutuellement de provocations et Israël maintient des positions dans le sud du pays. Au sein même du régime iranien, les luttes de pouvoir s'intensifient entre les modérés pragmatiques et les durs du corps des gardiens de la révolution qui, eux, semblent prêts à reprendre les combats. Le commandant des Pasdaran, Ahmad Vahidi, multiplie les signaux agressifs. Résultat, le monde retient son souffle, les prix du pétrole continuent de flamber, le trafic maritime mondial est perturbé et la menace d'une reprise des hostilités à grande échelle plane plus que jamais. Qui donc craquera le premier ?
Comment ? Vous connaissez pas Philippe Fabry ? Alors là, on pourra dire que vous êtes à l'abri de comprendre les choses, parce que quand une question se pose, avant de foncer la tête baissée sur les réseaux comme des oiseaux, on prend une dose d'historionomie. Surtout, n'hésitez pas à en parler à vos amis, ils ont peut-être dans leur malheur le nez collé sur leur bécane à écouter du Salamé ou encore pire du Abirkan. Pour comprendre le monde, c'est sur les analyses abondes. Il y a 14 experts à 2,50 m à la ronde, mais quand il s'agit d'expliquer les États-Unis, soudain tout le monde devient hystérique comme par magie. Ou au pire, ça plagie, on nommera pas qui régurgite. Mais bref, pendant que tout le monde s'agite, avec Philippe on s'assagit, on prend du recul. Eh oui, pendant que tout le monde s'engueule, un tel a dit machin, mais qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils veulent? Au lieu de se faire des nœuds au cerveau et de tout compliquer, avec ses modèles incisifs, Philippe peut tout expliquer. Alors prenez un coca, petite étude de cas. Poutine en Europe, c'est ambigu, c'est délicat. Ou bien peut-être a-t-on affaire à un impérialiste. Un peu revanchard, y en a quelques-uns dans la liste. Bouquinez son livre, il va vous mettre sur la piste. Vous aussi, bientôt vous pourrez scander Admouligne. Plutôt que du bruit diffus, vous verrez des signes. Au lieu de dire des anéries et des platitudes banales, ça s'explique par leur stade dans la construction nationale.
Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 25 avril 2026, il est 21h40, bienvenue à tous. Alors oui, il y a eu un petit... j'ai l'air d'être en avance alors que j'étais à l'heure habituelle, un peu en retard sur l'heure habituelle, mais en avance sur l'heure qui a été programmée, tout simplement parce qu'il y a eu un malentendu sur la préparation du titre de l'émission, et donc ça a été... voilà, il y avait un doute sur le « est-ce que je faisais live ou pas ?» Je pensais avoir été clair, je m'aperçois que je l'avais pas été, donc du coup voilà, mais c'est pas bien grave. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, je vous encourage d'ores et déjà à mettre plein de pouces sous cette vidéo, très important pour l'algorithme. Je vous invite également, je ne sais pas si ça s'affiche bien sur la chaîne, si vous recevez bien les notifications, etc. Je vous rappelle qu'il est extrêmement important d'activer la cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos, surtout que désormais, hormis les rendez-vous classiques de la chaîne, vous aurez noté qu'il y a les nouveaux formats flash qui sont apparus, qui sortent un petit peu à l'envi en fonction de quand j'ai envie de dire quelque chose, j'en parle. Ça permet d'aborder des sujets qui sont trop courts pour un live, parfois où c'est après qu'on m'ait posé une question dans un live privé ou quoi, je réfléchis au sujet, donc je me dis je vais en reparler là. avec une vignette, avec un truc, une petite vidéo facile d'accès qui reste, et avec l'idée aussi que bah, peut-être ça peut faire venir de nouveaux publics, parce que je me doute qu'il y a pas mal de gens qui ont peur de voir juste publier des vidéos d'une heure et demie, 1h20, et donc qui n'ont pas envie d'aller voir ça, alors que là, voilà, il y a des vidéos très courtes, hein, elles font quoi, entre 5 et 15 minutes, on va dire, c'est les formats flash. Pour moi, c'est facile à réaliser. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller les voir, par contre, parce que pour une raison qui m'échappe, alors que c'est censé être plus accessible, plus court, etc., il y a 3 fois moins de vues que sur les lives. Alors, je sais que les lives, c'est un peu faussé par le fait que, comme les gens viennent en direct, ben, ça accumule des vues. Mais enfin, quand même, beaucoup d'entre vous passent à côté. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir les formats flash, si ça vous intéresse, et peut-être pour les diffuser, ça sera mieux que d'autres trucs, que les formats longs. Voilà ce que je voulais dire là-dessus, ça laisse le temps d'arriver un petit peu aux gens qui n'étaient pas là. Alors, c'est pas vraiment un rebranding des vieux formats courts, même si peut-être d'une certaine manière si, mais le format court, il y avait l'idée que ça devait être régulier. Voilà, j'essayais d'en faire un par semaine à l'époque. Souvent je passais plus de temps, des fois il y avait un petit peu de montage qui était fait dessus. Le format flash, c'est vraiment super rapide, je prépare le truc, je le fais, je l'enregistre, hop, et on balance ça comme ça. Donc c'est quand même beaucoup plus facile pour moi à réaliser dans ces cas-là. Et puis surtout, comme c'est très c'est beaucoup plus simple et que voilà, c'est un peu un truc que je fais comme ça rapidement, ben, du coup vous en profitez d'une certaine manière, parce que ça m'amène à traiter des choses que peut-être j'aurais pas pris le temps de traiter si je m'étais dit non, il faut que tu t'y mettes, que tu bosses sérieusement et tout. Donc il y a peut-être un certain nombre de sujets aussi des fois que je traiterai pas comme ça a priori, mais que je le ferai juste parce que je sais que je peux le faire à la va-vite. Voilà. Ce soir donc on va faire un petit point sur où ça en est. Alors bien sûr, ça n'a pas la situation en Iran n'a pas peu avancé depuis ces derniers jours. J'avais pensé faire l'émission hier, je me dis que j'allais la faire aujourd'hui parce qu'on ne sait jamais s'il y avait une reprise des combats, etc. Ça m'évitait de revenir pour faire un format spécial, ce qui risque de devoir arriver dans les jours qui viennent si jamais les bombardements reprennent. Mais c'est pas grave, on sera là. Ça me paraissait quand même important de revenir là-dessus. Bon, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'émission puisqu'on a fait le super live privé des souscripteurs. C'est très sympa, il a duré 3h15, je crois, un truc comme ça. Je remercie encore très fortement Olayé qui, avec son long exposé sur l'endettement des départements, nous a éclairé. Donc, y a quand même des choses à voir. Alors, j'ai envie de traiter un petit peu le sujet, d'étendre un petit peu le sujet ce soir. On va parler bien sûr de ce qui s'est passé depuis, de la dynamique de pouvoir toujours, mais enfin, les fondamentaux, je vous les ai déjà donnés, notamment les parallèles avec ce qu'on pouvait voir en Allemagne, en URSS, etc. Donc ça reste valable, ce que j'ai dit dans les précédents lives privés là-dessus. Je ne reviens pas dessus en détail. On continue de faire le suivi, on va dire, le service à présent de ça, en essayant de voir qu'est-ce que les évolutions apportent. Est-ce que ça évolue dans un sens ou dans l'autre? Est-ce que ça nous fait penser qu'on est plus près de la fin ou plus loin de la fin que ce qu'on imaginait à la base? Voilà, ça c'est la première idée. Et le deuxième sujet dont je pense qu'on va parler un petit peu, enfin, qui est le même sujet en fait, ça serait de toute façon, c'est-à-dire quelle que soit la morphologie exacte du conflit là, c'est-à-dire que ce soit fini dans 3 mois ou dans 6, c'est de parler du Moyen-Orient d'après en fait, de toute façon après cette guerre. Voilà, ça, je pense que c'est quand même, il y a des choses intéressantes, parce que j'ai eu l'occasion de traiter des choses là-dessus dans le bulletin cette semaine, et je me suis dit que ça serait pas mal d'extrapoler là-dessus dans l'émission de ce soir. Alors depuis 15 jours, donc, essentiellement ce qu'on a eu, alors moi, je vous passe évidemment sur le fait que le commentaire médiatique est à peu près toujours le même, hein, les fameux revirements de Donald Trump, etc. Bizarrement, on ne parle pas de revirement des Iraniens, alors qu'ils ont, ils ont quand même dit qu'ils rouvraient le détroit d'Hormuz, ça y est, et puis finalement que non, c'était pas le cas. Donc en matière de revirement, c'est pas mal aussi. Ce qu'on voit en tout cas, ce qu'on voit là pendant ces 15 jours, depuis la dernière émission que j'ai fait là-dessus, c'est quoi les grandes informations? Les grandes informations, c'est que les négociations avancent pas. Chacun campe sur ses positions parce que chacun est à peu près persuadé vraisemblablement de pouvoir gagner. Et donc c'est pour ça que je termine mon introduction en disant qui craquera, c'est-à-dire qu'on est sur ce bras de fer là où finalement, en tout cas, il y a encore suffisamment de gens en Iran qui pensent qu'il suffit qu'ils tiennent et ils vont gagner. Et de l'autre côté, aux États-Unis, il y a l'idée que bah, ils ont écrasé l'armée, Les pertes qu'ils ont subies, notamment sur des bases américaines, qui ont certaines bases américaines ont subi des destructions importantes pendant les deux premiers jours, c'est-à-dire quand l'Iran pouvait faire des bombardements massifs de missiles. Depuis, l'Iran ne peut plus faire du bombardement massif de missiles. Il y a plein de gens encore qui se moquent de moi en disant « Ah, alors, vous avez dit quoi, truc ?» Ben oui, j'avais dit, c'était le 2 mars, que dans les jours qui suivraient, les Iraniens auraient plus de masse de missiles envoyés. Ben, le fait, ils n'en avaient plus. Ils ont toujours des gros stocks, ça c'est sûr, qui sont là, qui sont planqués, donc qui pourraient servir le cas échéant. Les lanceurs, ils en ont perdu une bonne partie. Et surtout, le truc, c'est qu'ils ne peuvent pas refaire des lancements massifs, parce que ça implique de sortir beaucoup de lanceurs en même temps. Donc ça exige plus de préparation que de sortir un lanceur rapidement en tunnel, tirer et puis re-rentrer. Donc forcément, c'est plus dangereux. Donc ça, visiblement, ils ne peuvent plus le faire. Ils ne sont plus capables de faire des grosses masses de missiles, comme celles qui étaient susceptibles de poser un véritable problème militaire aux États-Unis. Voilà. Donc, depuis, on est sur de la piraterie essentiellement, sur cette pression sur l'économie mondiale, avec l'idée que ça fera une pression politique, notamment sur les États-Unis, et que ça les amènera à lâcher. Donald Trump a fait d'une certaine manière une démonstration de volonté l'autre jour, puisque je vous rappelle que si vous écoutiez ce que vous expliquez les médias depuis, tous les médias, c'est-à-dire les médias dissidents comme les autres, depuis 2 mois... Donald Trump ne savait plus comment sortir de cette guerre. Il était pressé, il cherchait une porte de sortie. Et en gros, le but de guerre, c'était devenu de réouvrir le détroit d'Hormuz, alors que le détroit d'Hormuz était ouvert avant la guerre. Vous savez, c'est le narratif qui vous était sorti. Bon. Qu'est-ce qu'on a vu, là, il y a quelques jours? Eh ben, on a vu les Iraniens déclarer, peut-être en espérant se débarrasser du problème, et peut-être en ayant eux-mêmes trop cru cette propagande intra-occidentale, selon laquelle Donald Trump cherchait à se tirer du guépier. Eh bien, ils ont déclaré que le détroit était ouvert, n'est-ce pas? Et qu'a répondu Donald Trump? Il a dit très bien, mais moi je garde mon blocus fermé, n'est-ce pas? Donc, échec critique sur cette tentative-là. Les buts de guerre ne sont pas ceux-ci. Les buts de guerre restent ceux qui sont à la base, c'est-à-dire la neutralisation définitive de l'Iran comme menace dans la région sur tous les plans, mais notamment en matière nucléaire. Et effectivement, le changement de régime, de toute façon. Donc, à aucun moment Trump n'a verré là-dessus. Il est toujours sur les mêmes objectifs. Et en fait, du point de vue américain, l'idée, c'est l'armée iranienne, on l'a détruite. Donc la capacité iranienne à faire du mal à l'armée américaine, éventuellement, ou à Israël, elle est annihilée. Maintenant, on n'a plus qu'à appuyer, voilà, jusqu'à ce que ça craque en face, jusqu'à ce que ça cède. Et du côté iranien, vraisemblablement, ils se disent l'inverse. Ils se disent, bon, d'accord, on a perdu une bonne partie de nos moyens militaires, mais on peut encore tenir jusqu'à ce que l'autre craque. Voilà. Et donc, on est dans cette situation de blocage. Ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, on entend là aussi beaucoup. Hein, de toute façon, il faut à peu près prendre l'inverse de ce qu'on vous dit dans les médias pour comprendre la situation réelle. On a entendu énormément depuis le début que les Iraniens, vous savez, c'est ce vieux truc. Qui sortent toujours, en fait, sur tous les régimes autoritaires. C'est qu'ils disent, en gros, un régime autoritaire, il a le temps. Il n'est pas pressé, il peut attendre, voilà, indéfiniment. Genre, il n'a pas d'opinion publique, il n'a pas des gens qui crèvent de faim, etc. Comme si les régimes autoritaires n'avaient pas ça. On tient juste compte du pouvoir et du fait qu'il n'a pas d'élection. Et inversement, c'est ce vieux leitmotiv qui serait que les gouvernements démocratiques, hein, je mets toujours des guillemets à ça, même et y compris, voire particulièrement pour les États-Unis. Je renvoie à la conférence que j'ai faite à l'Institut catholique de Vendée, qui est dans une playlist sur la chaîne, pour comprendre ce que je dis par là, si ça vous surprend, qui serait donc fragilisé face à ça. Or, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit qu'au contraire, du côté américain, bon, à part que ça rue un peu dans les brancards médiatiquement, et du côté de l'opposition, le soutien de la base MAGA à Donald Trump, il bouge pas. Elle est peut-être pas majoritaire dans l'opinion, mais ça bouge pas. Donald Trump lui-même, il reste accroché à ses objectifs. Et inversement, les fractures internes, là où on les voit véritablement apparaître, c'est au sein du régime iranien. C'est-à-dire que cette fissure interne du régime, qu'on avait anticipée, je vous l'avais dit, ça se passera comme ça s'est passé, pareil, hein, encore une fois, à la fin de l'URSS, entre les autorités civiles et les autorités communistes, proprement communistes, du parti, comme ça s'est fait entre le régime militaire à la fin de l'Empire allemand et le régime civil, là aussi, je vous avais dit, on verra apparaître une cassure comme ça va se déployer. Et le fait est que c'est effectivement ce qu'on voit. Et on le voit surtout, ce qui a été intéressant donc la semaine passée, c'est que ça devient officiel. Officiel, véritablement. C'est-à-dire que désormais, on en parle. Donald Trump en parle. Donald Trump a lui-même mentionné ça, a mentionné le fait qu'en gros, il fallait que les Iraniens se mettent d'accord pour savoir qui c'était qui commandait, qui c'est qui commande. Et alors, il est difficile de savoir exactement, naturellement, ce qui se passe à l'intérieur. Hein. C'est un petit peu comme la kremlinologie à l'époque. On doit essayer d'étudier les signaux et d'interpréter ce qui s'entend. Mais il y a des rumeurs insistantes, quand même, sur le fait, notamment, par exemple, que peut-être Ralibaf aurait été écarté au profit de... on ne sait pas de qui, d'ailleurs, mais enfin, on sait qu'il aurait été écarté parce que considéré peut-être déjà trop modéré par les gardiens de la Révolution. Il y a eu des rumeurs, mais semble-t-il ensuite démenties, que un certain nombre de chefs civils, donc Rakhchi, le ministre des Affaires étrangères et négociateur, Pezeshkian, Ralibaf, auraient été placés en résidence surveillée. Alors, bon, apparemment, ça n'empêche pas Rakhchi d'aller à Islamabad, donc c'est peut-être pas certain. Il y a eu aussi le lancement, vous savez, de ces discours où ils ont tous publié le même message, je crois. En tout cas, je l'ai lu posté par Pezeshkian comme par Ralibaf, un message disant qu'il n'y avait pas des modérés et des radicaux en Iran, qu'il n'y avait que des révolutionnaires, qu'ils étaient tous d'accord, etc., pour l'Iran, bon, bref. Donc il y a eu cette image d'unité qui a été faite, qui est peut-être le canon sur la tempe par les passes d'Aran, hein, données aux autorités civiles. Mais clairement, on voit que désormais, il y a cette dialectique à l'intérieur du pouvoir iranien, et qui peut se résumer de la sorte, en fait, c'est que les mollahs ont été évacués, voilà, ce n'est plus le régime des mollahs, et désormais, il y a une lutte pour la succession entre l'autorité civile et l'autorité militaire du régime, c'est-à-dire les gardiens de la Révolution. Et j'ai envie de dire, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est toujours comme ça que ça se passe. Si vous vous souvenez, il y a eu le coup d'État de Gennady Genayev à la fin de l'URSS, c'était là aussi les durs du régime communiste soviétique, et qui tentaient de maintenir le pouvoir et d'empêcher finalement la négociation avec les Américains. La date m'échappe d'ailleurs, c'était le coup d'État de Genayev, c'était quand déjà non, c'était pas ça. Ah. Je vais essayer de vous l'afficher en plus, que vous ayez une tête, voilà. Alors, Gennady... On n'a pas beaucoup de photos de Gennady Yanayev. Voilà, c'était en août 91, donc c'était 6 mois, même pas 6 mois avant que l'URSS s'effondre définitivement en... Attendez, je vais vous l'afficher. Tac. Ah, je suis plus visible. Voilà, je suis là, je suis pas sur bonne caméra, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, je suis un tout petit. Donc c'est lui, Gennady Yanayev. Et donc il avait tenté un coup d'État en août 1991, il y avait Gorbatchev qui avait disparu pendant quelques jours. Et voilà, donc pour vous dire que dans ce genre, et on était encore une fois en pleine négociation, en pleine sortie, de ce que je vous ai raconté lors de la dernière émission là-dessus, hein. Et donc il y a tentative des durs de bloquer le truc. Comme je vous l'ai dit aussi, pendant les négociations mi-octobre 1918, vous avez Ludendorff qui, une dernière fois à un moment, a tenté d'interrompre les négociations. Bon, il n'a pas réussi, les négociations sont maintenues, mais il a tenté de les interrompre en se disant « on a encore une chance de gagner ». Bon, ben c'est pareil. Donc en fait, vous voyez la même chose. On est dans les mêmes dynamiques. Et donc tout ceci, moi, me confirme qu'on est dans cette phase finale du régime, finalement, qui va finir par tomber. Voilà, la fracture est là. Elle est maintenant de plus en plus documentée. Et dans la stratégie de Donald Trump, finalement, de maintenir le blocus, il y a un peu l'idée de mettre à feu doux, hein, finalement, et puis forcément, quand l'eau bouge, mets les pattes, comme disait l'autre. C'est véritablement ça qui est en train de se passer actuellement en Iran. Je ne suis pas capable de dire combien de temps ça va prendre pour que ça s'effondre totalement. Comme je vous ai dit la dernière fois, le problème que j'ai par rapport à tout ça, c'est qu'il y a des éléments qui... Si vous prenez le cas allemand, encore une fois, la crise de juillet 1917, qui est la transition du pouvoir vers les militaires directement, les civils ne reviendront sur le devant de la scène qu'à partir de septembre 1918, donc plus d'un an plus tard. Voilà, c'est quand même assez loin de la fin. Maintenant, la différence, les choses ont été plus vite en URSS, comme je viens de vous le redire. Et puis, il faut bien se rendre compte aussi d'une chose pour le cas allemand, c'est que entre juillet 1917 et août 1918, il se passe pas grand-chose qui va dans le sens de la fragilisation du régime. Au contraire, la fin de l'année 1917 et le début de 1918 est plutôt un moment de respiration pour le pouvoir allemand et pour les militaires allemands, puisqu'ils gagnent définitivement à l'Est, c'est-à-dire qu'ils battent les Russes, ils arrivent à obtenir la paix, la victoire, ils arrivent à ramener des troupes sur le front occidental, ils arrivent à nouveau à avancer en direction de Paris pendant toute la première moitié de 1918. Donc, il n'y a pas de pression sur ce pouvoir-là, si vous voulez. Alors que les Iraniens, à ce stade, on voit mal quelle serait la phase de 6 mois ou 9 mois de succès qu'ils pourraient rencontrer, étant donné l'étau dans lequel ils ont été placés par les États-Unis. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à croire qu'on soit plus proche de la temporalité où il faille attendre encore, mettons, un an de blocus pour que l'Iran tombe. Plutôt que quelque chose de plus court. Voilà, je reste persuadé qu'on est assez proche de la fin, mais il faut voir aussi que il est à mon sens peu probable que ça tombe sans qu'il y ait une dernière poussée américaine militaire pour enfoncer le clou, peut-être pour montrer encore un petit peu plus de détermination. Parce que avec le blocus, les Iraniens peuvent avoir le sentiment que les Américains ne veulent plus taper ou ne veulent pas aller plus loin, et que donc en gros il suffit de faire le gros dos. Et je pense que si vous avez un adversaire qui est persuadé qu'il suffit de faire le gros dos et qu'il va tenir, alors ça peut, vous pouvez arriver à le faire tomber malgré tout comme ça, hein, en l'affamant, même s'il n'est pas affamé véritablement. En le privant de ressources, en faisant en sorte qu'il puisse plus payer les milices, les soldats, etc., et que ça génère un mécontentement interne, à ce moment-là, ça vous prend quand même un petit moment. Ça se fait pas en 15 jours. Et puis, il est vraisemblable que les gardiens de la Révolution ont encore une autorité en interne qui vient aussi de la puissance qu'ils ont en interne, qui leur permet de s'imposer. Et puis, on voit aussi qu'il y a une... Alors, Si ça tient aussi au soutien de la population, parce qu'on a vu paraître dernièrement des sondages de la part des chaînes officielles iraniennes. Alors bon, très difficile d'accorder crédit à ce qu'elles disent. Elles peuvent dire la vérité, par accident, comme ça peut être totalement gonflé. Mais en tout cas, ils appuient sur le fait qu'ils ont encore un soutien populaire. Et je pense que de toute façon, à l'intérieur de l'Iran, je ne gagerai pas qu'il est majoritaire, mais il y a des gens qui soutiennent, clairement, notamment tous ceux qui profitent encore du régime. Et qui, même si ils profitent moins du régime parce que l'argent manque à cause du blocus, de la guerre, etc., savent que leur situation sera encore plus pénible si le régime tombe. Donc ils ne sont pas prêts à accepter ça. Et on voit des images qui sortent d'Iran où y a des milices qui quadrillent les rues, qui tirent sur les immeubles pour intimider les gens, qui hurlent des slogans favorables au régime, tout ça. Donc tout ceci existe encore à l'intérieur du pays. Comment aller lutter contre ça, je suis pas sûr que ce soit en bombardant les ponts et les centrales électriques comme Donald Trump l'a éventuellement en a menacé, que vous arrivez à régler ce problème là. À mon avis, d'autres types d'opérations militaires seraient éventuellement plus efficaces. Il semble que ce vers quoi les Américains vont, c'est la tentative, ben, éventuellement par la force justement, de libérer le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire en concentrant le feu, ce qui semble-t-il jusqu'ici n'a pas été le cas, en concentrant le feu sur tous les moyens qui permettent exclusivement de bloquer le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire y compris les petits navires, y compris les batteries côtières, y compris tout ce qui est capable de menacer dans la région. Alors ce qui ne signifie pas que ça rendra les Iraniens totalement incapables de bloquer le détroit d'Ormuz. Encore une fois, à partir du moment où le problème est surtout un problème financier et assurantiel, on va dire, c'est-à-dire que les assureurs ne veulent pas prendre le risque de laisser traverser des bateaux qui pourraient prendre des missiles tirés avec des dispositifs relativement légers, c'est très très difficile de contrôler ça, sauf éventuellement en allant au sol. sur un certain nombre de régions, donc c'est peut-être ce qui va finir par arriver. On a vu des transits de matériel très importants qui ont eu lieu pendant les 15 derniers jours. Il y a un nouveau porte-avions qui est arrivé. J'ai pas eu de chiffres sur des nouvelles, on n'a pas entendu parler de ça en tout cas, peut-être justement parce que ça a été fait discrètement, de troupes éventuellement déployables au sol qui auraient été amenées. Ça, en plus, c'est ces 15 derniers jours, ça, je n'en ai pas entendu parler, mais c'est pas, il n'est pas impossible que les Américains l'aient dissimulé, hein, et fait du bruit sur d'autres choses pour pas qu'on se doute de ce qu'ils vont faire exactement. Mais voilà, donc on n'a pas vu encore ces nouvelles frappes, hein. Peut-être qu'on les verra dans les jours qui viennent, peut-être que, encore une fois, Donald Trump va maintenir le couvercle sur la marmite et laisser mijoter pendant quelques temps, en espérant que ça fera bouger les Iraniens. Pour l'instant, non, puisque semble-t-il, Araghchi était à Islamabad aujourd'hui et qu'il est parti avant que les Américains arrivent. Donc Donald Trump a publié un message sur Truth Social en indiquant que finalement il n'enverrait pas Witkoff et Kouchner, sachant qu'il n'envoyait pas J.D. Vance, je crois, parce qu'en face il n'y avait pas Ralibaf et qu'en gros il ne savait plus à qui il parlait. Mais encore une fois, tout ceci ne signifie pas qu'on n'est pas à quelques semaines de la fin. Si on est sur un niveau, on est quand même sur le niveau de la pression militaire exercée sur l'Iran. Pour moi, on est quand même plus proche de ce qui s'est passé à partir d'août 1918. Je renvoie à ce que j'ai dit les dernières fois, mais parce que on a véritablement une espèce de ceinture, un blocus, ce qui était le cas aussi de l'Allemagne à l'époque. On n'a pas de troupes sur le territoire métropolitain iranien lui-même. Il n'y a pas eu de déploiement, mais il n'y a pas eu de troupes. Les troupes ne sont pas rentrées en Allemagne, encore une fois, en 1918. Donc c'est juste des gens qui sont autour, qui bloquent, mais qui ont détruit les capacités militaires de riposte. Et la pression est maximale là-dessus. Et Donald Trump a encore le temps, hein, parce que même si on dit les mid-term, c'est dans plus de 6 mois, quoi. Donc ça laisse le temps. En 6 mois, il peut s'en passer. Est-ce que le régime iranien peut tenir 6 mois? C'est une bonne question. Mais encore une fois, je le répète, hein, c'est difficile d'être plus précis que ça dans les prévisions. Et la question de savoir si ça valait le coup d'accélérer la chute du régime de quelques mois, peut-être, ou éventuellement un an, en l'attaquant, plutôt que de laisser tomber en laissant remonter les manifestations au bout de quelques temps, parce que, encore une fois, elles s'accentuaient. Tout ça, on le saura à la fin. On le saura à la fin, et dans le résultat qui sera celui de cette guerre aussi. Pour l'instant, on n'est pas sorti de cette opération. Il y a quand même une chose. Alors, j'ai oublié d'aller vous la chercher. Je vais voir si je peux vous la retrouver là vite fait. Ça va être compliqué parce que je l'avais retrouvé l'autre jour sur Twitter. C'est un de mes une des personnes que je suis sur. Sur X qui s'appelle Olivier Maurice, c'est intéressant parce que il partageait un schéma de doctrine opérationnelle en fait des États-Unis qui a une trentaine d'années en fait, et c'est très intéressant. J'ai essayé de vous le trouver pour vous l'afficher, parce que ce que ce schéma montre en fait, c'est exactement ce qu'on voit dans l'ordre des opérations. C'est-à-dire que, alors que les grands médias, et je trouve ça extraordinaire parce que je comprends pas que personne sur les plateaux télé ne parle de ce, au moins pour discuter, de cette théorie doctrinale américaine. Personne n'en parle, alors que tout le monde vous parle des revirements de Donald Trump, du fait que justement il change de stratégie en permanence, il sait pas où il va, il sait pas quels objectifs il poursuit, il s'est lancé dans cette guerre sans savoir vers quoi ça irait. Alors qu'on vous dit tout ça, on s'aperçoit que ce que font les États-Unis, parce que c'est pas que Donald Trump, hein. Donald Trump, il a tout l'appareil militaire, le colossal appareil militaire américain, avec tout un tas de gens qui bossent là-dessus depuis très longtemps. Alors vous savez qu'il est dit souvent que les armées ont des plans sur tout un tas de choses. Il est certain qu'ils ont encore plus de plans sur les choses qui vraisemblablement se feront un jour. Et sur l'intervention en Iran, les gens qui ont expliqué que, en gros, le détroit d'Ormuz n'était pas prévu, etc., le blocage américain, alors qu'on en a toujours entendu parler, évidemment qu'ils avaient il y a des plans, il y a des choses là-dessus pour savoir à peu près comment on va bouger. Bref. Et donc, ce qui est très intéressant, j'essaie de vous trouver ce schéma, je suis en train de vous le chercher, je remonte le fil, j'espère que je vais le trouver. Sinon, je ne vais pas vous le dessiner à la main, ça serait un peu con. Ça montre la doctrine opérationnelle américaine pour en fait justement mettre la pression et négocier avec des pays, notamment dans le cadre d'un changement de régime. Assez clairement, c'est comme ça qu'on le voit. Et en fait, ça vous montre que c'est exactement ce qui est mis en pratique par les Américains depuis le début du conflit. C'est-à-dire que vous commencez donc, bon, alors il y a les premières étapes qui sont de lancer le. Ah voilà, je vous l'ai trouvé. De lancer le... Ah, je vais vous l'afficher, puis comme ça, je pourrai vous en parler, ce sera plus clair pour tout le monde. Voilà. Parce que je ne comprends pas honnêtement qu'on ne parle pas plus de ça. Alors, tac. Est-ce que ça s'affiche? Voilà, regardez. Je vais vous l'agrandir un peu, voilà. Avec niveau des faits humanitaires et les phases du plan. Alors, j'espère que vous voyez tous bien. Donc, vous avez d'abord le shaping activities, c'est le fait de préparer l'action, naturellement, le champ de bataille. Deterring activities, ben, c'est la dissuasion pour empêcher éventuellement l'autre d'escalader plus. Vous avez la saisie d'initiative qui arrive en premier, là vous voyez ça gonfle en phase 2 au moment de saisie de l'initiative. Ensuite vous avez les dominating activities, celles-ci c'est les opérations qui vous permettent d'écraser en fait l'adversaire et de montrer que c'est vous qui avez le dessus militairement. Et ensuite vous avez la préparation de la sortie du conflit avec la phase de stabilisation puis à la phase finale d'une certaine manière qui est le fait de laisser l'autorité civile suivante gouverner. Et donc vous voyez qu'entre temps vous avez ce enabling civil authorities activity, c'est-à-dire qu'en fait que vous allez accréditer une autorité civile à l'intérieur du pays qui sera différente de celle que vous avez essayé de renverser, et vous allez lui permettre de s'installer petit à petit. Et en fait si vous regardez ce qui s'est passé depuis le début de cette opération, je trouve ça extrêmement intéressant parce que ce schéma vous le montre, vous avez donc la préparation naturellement, la dissuasion avec l'accumulation du matériel autour. Ensuite, vous avez l'initiative, bon, c'est le lancement des frappes, les frappes de décapitation, etc. Puis vous avez eu un mois, c'était le mois de mars, de frappes, c'est dominating activities, hein, c'est de voilà, vous écraser, vous marteler, vous montrer que vous êtes le plus fort. Et ensuite, vous commencez à négocier. Alors, ce qu'on vous a présenté comme le « Ah, ils sont bloqués, ils sont enlisés, ils cherchent à négocier parce qu'ils cherchent une porte de sortie », non, non, c'est dans le manuel, en fait. Hein. Une fois que vous avez bien tapé, ben, vous commencez à... Et c'est même pas le manuel, c'est même pas « The Art of the Deal », si vous voulez, ça, c'est la doctrine américaine, quoi, de l'armée américaine. Une fois que vous avez fini de taper, vous commencez à sortir de ça en vous adressant à une autorité civile à laquelle vous allez chercher, qu'en même temps, vous allez chercher à faire... l'autorité civile véritable qui sera l'autorité suivante dans le pays. Donc vous commencez à lui parler, vous commencez à négocier avec elle. À côté de ça, vous dénoncez ceux qui, à l'intérieur du pays adverse, sont contre la négociation, donc en l'occurrence les IRGC. Donc vous séparez les deux, en fait. Hein, et éventuellement, vous allez faire d'autres activités de frappe pour ce qui semble-t-il est envisagé par les Américains, pour taper sur ceux qui résistent encore à la négociation et qui sont en fait les ennemis ou les rivaux de l'autorité civile que vous cherchez à installer. Et ensuite, hop, vous négociez et puis ensuite vous sortez de guerre. Voilà. Alors, encore une fois, moi je trouve ça très intéressant parce que ça explique, voilà, vous regardez ça, vous avez la morphologie du conflit, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Alors je suppose qu'il est possible qu'il y ait plusieurs étapes de dominating activities, par exemple si à un moment ça marche pas, mais donc parce que c'est théorique, mais venir expliquer que en gros pratiquement les Américains font au jour le jour et tapent des trucs sans savoir trop où ils vont, non seulement, et encore une fois c'est même pas dire c'est Trump maître du 4D chess, etc., le grand joueur d'échecs Donald Trump, non c'est pas du tout ça, c'est la doctrine militaire américaine. Limite Trump en pilotage automatique sur la doctrine militaire américaine. Le mec laisse bosser les pros. Et donc, ils font comme ça. Et lui, il tente de faire la négociation. Alors, il le fait à la Trump, naturellement. Mais ça reste du classique, quoi. Donc, voilà. Je trouve ça hallucinant que ce ne soit... Parce que, avec tous les généraux de plateau qu'il y a, quand même, qu'il n'y en ait pas un qui sache ça, je trouve ça quand même... choquant. Voilà. Bon. Mais malheureusement, c'est comme ça. Mais du coup, on est vraisemblablement quelque part entre la phase 3 et la phase 4, à mon avis, à ce stade, qui vise à établir une autorité civile qui pourrait prendre le relais. Alors le problème, c'est de savoir si cette autorité civile pourra effectivement prendre le relais. Ou bien est-ce que le pays, notamment parce que ça serait à l'intérêt de la Russie, par exemple, qui est un petit peu occupé ailleurs, mais il peut y avoir des endroits de soutien, le pays pourrait sombrer dans la guerre civile. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit en entrée de conflit. Ça serait pas surprenant. Encore une fois, si vous prenez, faut se souvenir, si vous prenez, je vais reparler de l'Allemagne, 1918. L'Allemagne 1918, aussitôt, en réalité, vous avez le pouvoir militaire, d'une certaine manière, ne disparaît pas tout d'un coup à l'armistice. Vous avez l'armée qui rentre, pas entièrement désarmée, même si une bonne partie de l'équipement lourd doit être donnée aux alliés, mais ces soldats qui rentrent en Allemagne, qui restent armés en tout cas souvent avec des armes légères, et qui vont constituer les Freikorps, hein, les corps francs, qui vont aller se taper avec les révolutionnaires bolcheviques en Bavière, à Berlin, etc. Et le désarmement complet de ces corps francs n'interviendra qu'à partir de mars 1920. Il faudra presque 2 ans, 1 an et demi, pour arriver à désarmer ces corps-là. Et c'était l'équivalent donc du noyau de l'armée en fait qui acceptait pas la défaite d'une certaine manière. C'est là qu'est née la légende du coup de poignard dans le dos, tout ça. Et même après le désarmement en 1920, vous avez une bonne partie de ces gens-là qui sont allés rejoindre les sections d'assaut de Rome et qui ont survécu en fait pendant toute la République de Weimar. Alors pendant les années 20, à partir de 1923, les choses se sont relativement calmées. Il y a eu la prospérité de la fin des années 20. Donc le pays n'a pas été en guerre civile, mais ensuite les tensions sont réapparues des suites de la crise de 29, et la suite, vous la connaissez. Donc c'est probablement quelque chose comme ça qui attend aussi l'Iran. Donc en interne, c'est un pays qui va être affaibli, pas d'un moment. Il va être obligé de se recomposer totalement. Vu la quantité de choses dans l'économie qui étaient commandées, qui étaient, contrôlées par les Pazdaran, c'est un peu l'équivalent de la chute de l'URSS, avec probablement que vous allez avoir des types qui vont récupérer des pans entiers de l'économie, comme les oligarques des années 90 en Russie. Ça ne va pas être démocratie fleur bleue, de toute façon, l'Iran, au sortir de ça. Vous allez avoir une chute de régime, comme vous avez là eu la chute de l'Union soviétique. Mais derrière, ça ne veut pas dire que les choses vont super bien se passer. Il faut bien se rendre compte de ça. Et donc, on va vraisemblablement avoir un effondrement stratégique de l'Iran, de toute façon, qui va être considérablement affaibli, qui perdra vraisemblablement son stock d'uranium dans la foulée, qui perdra une grande partie de ses capacités aussi à s'équiper militairement, hein, parce que si vous regardez les années 90 en Union soviétique, l'armée qui était le secteur qui était gorgé d'argent par le régime soviétique, c'est devenu complètement ruiné. Vous avez des sous-marins qui ont commencé à rouiller à quai, vous aviez des soldats qui allaient se prostituer sur la place rouge parce que c'était le seul moyen qu'ils avaient de faire de l'argent. Donc c'est quand tout le système tombe en recomposition, c'est très très compliqué de s'en sortir. Et là, on est sur un pays de 90 millions d'habitants, donc on est sur des ordres de grandeur qui vont vraisemblablement produire les mêmes conséquences. Donc il y aura sans doute des opportunités. Il faut espérer qu'il y a tout un tas de choses qui vont s'améliorer dans l'Iran de la décennie prochaine, comme ça a été le cas pour la Russie des années 90, qui a connu un certain nombre de progrès sur un certain nombre de secteurs aussi, mais ça a été avec énormément de douleurs aussi, clairement, il faut le dire. Et ça risque d'être pareil en Iran, surtout qu'encore une fois, il y a beaucoup de fanatiques qui peuvent encore être relancés dans des processus de guerre, et qu'en plus, il y a tout un tas de risques de déstabilisation dans les pays voisins, hein, notamment sur la question des milices iraniennes, par exemple, si elles perdent du temps, qu'elles ne voient plus arriver l'argent qui vient d'Iran, ça peut aussi déstabiliser l'Irak. Voilà. Il peut y avoir ce genre de réplique. Donc ça risque de compliquer la situation dans la région. Et donc le Moyen-Orient d'après sera peu vraisemblablement, laissera à la puissance iranienne peu vraisemblablement une place similaire à celle qu'elle avait. Au contraire, cette puissance va être démembrée. Je ne pense pas que le territoire de l'Iran va éclater a priori, mais il va y avoir un affaiblissement assez clairement de ça. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? À quoi ça va ressembler ce Moyen-Orient de demain? Pourquoi j'ai plus ma fenêtre là? Pourquoi ça s'est enlevé? Où est-ce que c'est? Je vais le remettre là. 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 Tac. Eh bien. Oh, c'est pas possible. Pourquoi ça marche plus? Si, c'est là. Ok. Ah, ben voilà, ça y est. J'en profite pour vous dire de mettre des pouces. Il n'y en a pas tellement. Alors, vous n'êtes pas très très nombreux, mais bon, comme il n'y a pas eu d'annonce de l'émission avant, c'est compliqué. Je ne sais pas si ça se trouve, il y a des matchs en plus ce soir. J'ai pas trop suivi ça. N'hésitez pas à mettre des pouces. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à nous soutenir. C'est extrêmement important. Hein. Vous le voyez, j'essaie de faire le taf. Je vous ai rajouté des formats, encore une fois. Je le redis, je l'ai dit au début de l'émission. Mais allez voir les formats Flash. Je pense que ça vous intéressera. C'est hyper ciblé sur les sujets. Et j'essaierai, plus ils auront de succès, plus j'aurai envie d'en faire. Donc plus j'essaierai de les multiplier aussi. Donc voilà. Moi, je vous donne encore plus. N'hésitez pas à nous aider un petit peu. On en a bien besoin. Bien. Alors oui. Donc le monde d'après. Du coup, qu'est-ce que ça va donner ce hors de l'Iran lui-même, le Moyen-Orient poste de cette puissance iranienne finalement qui va continuer à refluer avec un Hezbollah qui va être de plus en plus affaibli, parce que pour l'instant il résiste encore, mais c'est aussi parce qu'il a encore bénéficié jusqu'à récemment des moyens de l'Iran. À partir du moment où l'Iran n'aura plus de moyens d'argent qui ira en direction de Hezbollah, qui ira en direction des milices iraniennes, etc., eh bien, ces endroits-là vont devoir trouver d'autres moyens de gagner de l'argent. Alors, ils peuvent se tourner encore plus vers des trafics, etc. Ça peut être problématique. Mais voilà, il va y avoir des évolutions. Et ce qui est très intéressant, donc j'en parlais l'autre jour dans le bulletin, c'est qu'on voit d'ores et déjà qu'est-ce qui va se passer. Et comme de bien entendu, ce qui va se passer, c'est ce qui était prévu. C'est-à-dire que, enfin, ce que je vous disais déjà il y a un an et demi, deux ans, et encore plus longtemps pour ce qui était de la Turquie, c'est-à-dire que vous allez avoir d'un côté une puissance turque qui va continuer à s'accroître, être de plus en plus dominante dans la région, parce que naturellement, si l'Iran s'efface, eh bien, c'est à la Turquie que ça va profiter, principalement. Et d'autre part, ça va profiter évidemment à Israël, et à sa tentative de faire son koinon régional, donc avec en rassemblant un certain nombre de gens, faire un peu sa ligue de Delos, pour contenir précisément cette puissance turque. Et les Arabes se positionneront vraisemblablement par rapport à tout ceci. Il faut se rendre compte que c'est d'ores et déjà dans les problématiques. C'est-à-dire que la guerre en Iran n'est pas terminée, elle est encore en cours. D'ores et déjà, les gens font les calculs de l'après. D'ores et déjà, en Israël, on commence à considérer que la Turquie est le nouvel Iran. C'est-à-dire que déjà, l'Iran, on considère que l'Iran, c'est mort. Voilà, on va les terminer très bon. Sauf que les Israéliens savent très bien que quand l'Iran ne sera plus là, tout ne sera pas réglé pour Israël, parce que désormais, ils auront la Turquie en face. La Turquie qui continue à avancer ses points, ses pions, qui a mis la main sur la Syrie, sont en train de s'installer militairement à Palmyre, hein, assez nettement, donc ce qui est une menace naturellement pour Israël, si vous avez les Turcs ici qui sont installés. La Turquie est le premier partenaire économique de l'Irak aussi, donc la Turquie est en train de récupérer son espace ottoman traditionnel, hein, celui qu'elle a perdu en 1918, là aussi. Elle s'est projetée en Azerbaïdjan. L'Arménie est en train de devenir de plus en plus une espèce d'état vassal azéro-turc, en fait, puisqu'elle a compris qu'elle avait personne pour la défendre, qu'il fallait pas compter sur les Russes, que les Iraniens, bah, dans le monde de demain, ils n'auront probablement pas, alors que c'est un protecteur de l'Arménie, la capacité de faire ça. Et par ailleurs, Donald Trump a essayé de mettre en place un arrangement qui garantit relativement au moins l'existence de l'Arménie, avec le corridor Trump, mais qui de facto intègre l'Arménie à cet espace entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, qui tous les deux en plus sont beaucoup plus riches que l'Arménie, de toute façon, laquelle est enclavée, tout ça. Donc, pas trop le choix pour l'Arménie d'être prise là-dedans. Donc on a une Turquie qui est en train d'augmenter là-dessus, une Turquie en plus qui continue de se développer, qui augmente son PIB, qui a des difficultés économiques importantes internes souvent, hein, mais qui grosso modo grossit, qui est en train de construire un véritable complexe militaro-industriel, ça je vous en parle régulièrement, un complexe militaro-industriel notamment en matière de drones, hein, ça on l'a vu dès le début de la guerre en Ukraine, donc la Turquie en fait profite aussi du fait de cette mutation des drones pour rattraper son retard, puisque du coup, à partir du moment où vous êtes en pointe sur les nouvelles choses qui arrivent, eh ben ça, vous n'avez pas de retard à rattraper sur les autres sur ce secteur-là, et donc plus il devient important, plus ça vous aide à rattraper globalement. La Turquie également se lance dans le spatial, puisque c'est... alors je me souviens plus, je ne veux pas vous dire de bêtises... Je crois que c'est avec l'Érythrée. Je crois que c'est avec l'Érythrée. En tout cas, c'est par là. L'Érythrée ou la Somalie. Que la Turquie veut faire son courroux, en fait. Hein, l'équivalent de ce qu'on a en Guyane. Ou Cap Canaveral en Floride. La Turquie veut construire ce genre d'installation. Ils ont passé des accords pour se lancer aussi dans le spatial. Donc la Turquie... est sur le point de devenir également une puissance spatiale. Il faut bien se rendre compte de ça. Donc la Turquie est en train de grossir énormément, et en plus, elle récupère un petit peu ce qui était, vous le savez, les plates-bandes, ou le filon de l'Iran. Parce que vous savez que l'Iran... avec la révolution islamique, l'Iran de toute manière a toujours un gros problème, c'est que il n'est pas arabe et il n'est pas sunnite. Donc la lutte contre Israël, en fait, a été un moyen de soft power, peut-être encore plus que ça, pour l'Iran depuis 50 ans, en direction du monde arabe. L'idée de l'Iran, c'était de se positionner comme leader du monde arabo-musulman, en n'étant ni sunnite ni arabe. Donc pour faire ça, le mieux, c'était la détestation d'Israël. Et c'est comme ça que l'Iran a constitué cet axe de la résistance, et c'était une stratégie qui était relativement efficace, il faut dire ce qui est, mais qui sera probablement laissée tomber à partir du moment où l'Iran n'aura plus ses ambitions hégémonique finalement, ou en tout cas où il aura des problèmes plus localisés. Hein. Encore une fois, vous projetez la Russie des années 90 sur l'Iran, c'est probablement ce qu'ils attendent dans les 10 années qui viennent. Putain, il y a encore un gland là qui vient expliquer qu'on comprend de quel côté mon narratif penche. Non, mon narratif, je ne penche pas vers un narratif. Je vous explique les choses techniquement comme elles sont. Et le fait est que si j'ai tendance à prendre des positions, c'est justement au regard de ce que mes analyses donnent. Je ne fais pas l'inverse. Moi, je suis pas émotionnel. Je suis trop autiste pour ça. Donc voilà quelle était la position de l'Iran. Et en fait, la Turquie est en train de récupérer ça. La Turquie est en train de faire pareil. C'est-à-dire que Erdogan a bien compris que si on veut se projeter en direction du monde musulman, alors la Turquie a l'avantage d'être sunnite. Donc déjà, un point en moins... un point pour le mammouth, un point en moins pour à surmonter pour se projeter en direction de cet espace-là. Mais en plus, Ça reste quand même des Turcs, donc pas des Arabes. Et donc pour se projeter en direction de tout cet espace-là, il faut toujours le faire en tant, comme c'était le cas à l'époque de l'Empire ottoman, hein, d'ailleurs, comme champion de l'islam. Et donc, comme champion de l'islam, on va naturellement s'opposer à Israël. Et c'est notamment parce que la Turquie joue de plus en plus cette carte. Ça fait 10-15 ans qu'elle la joue, hein, par intermittence. Mais bon, Erdogan est à fond dessus depuis le 7 octobre. Que forcément ça devient dangereux pour Israël. Israël aurait pu être en paix avec une Turquie kémaliste, mais à partir du moment où la Turquie cherche à jouer cette carte anti-sioniste pour s'attirer les faveurs du monde arabe, et ben, naturellement ça devient le canal de ça, si vous voulez. Donc grosso modo, si vous prenez la Turquie, elle a deux grands ressorts. Elle a l'islam et l'antisionisme, les deux étant un peu liés. Ça, c'est en direction de l'espace ex-ottoman, c'est-à-dire essentiellement l'espace arabe. Et de l'autre côté, elle a le panturquisme, donc là, c'est sur le côté ethnique, et ça, c'est en direction de l'Asie centrale, hein, naturellement. Et donc, ce que je vous disais, c'est que en cas d'Israël, on commence déjà à percevoir la Turquie comme le nouvel Iran, et peut-être même encore plus dangereux d'une certaine manière. Et inversement, la Turquie est en train de répandre le narratif, quand en fait j'en ai parlé dans le dernier bulletin, que les pays musulmans s'inquiètent de l'alliance qui émerge entre Israël, Chypre et la Grèce, hein, puisque Israël est en train de mettre en place cette alliance, finalement, cette espèce de ligue, comme ça, pour un peu contenir la puissance turque, ça, ce qui enfoncerait d'ailleurs qui mettrait une barrière dans la volonté d'expansionnisme turc en direction de la Méditerranée occidentale et de l'Afrique du Nord. Et on est typiquement donc dans la tentative, en fait, la stratégie israélienne, c'est quoi ? C'est, ben on est petit, mais il y a plein d'autres petits dans la région qui sont hostiles à la Turquie, qui est grosse, donc on va réunir tous les petits, hein, faire une, ben, ce que j'appelle le koinon, hein, c'est-à-dire la ligue à l'époque d'Athènes, et pour bloquer, en fait, pour bloquer tout ça. Et donc les liens se resserrent de plus en plus, effectivement, entre la Grèce, entre Chypre, entre Israël, mais également il y a la volonté israélienne de grimper un petit peu au Liban, dans l'idée de prendre le sud Liban et de créer la zone tampon, c'est aussi d'éloigner éventuellement la frontière. À terme, je pense qu'une fois le Liban débarrassé du Hezbollah, il y aura la tentative par les Israéliens de rapprocher le Liban de cette alliance avec Chypre et avec Israël. Donc vous auriez un koinon qui ferait Grèce, Chypre, Liban, Israël, mais aussi vraisemblablement la zone de Souweida en Syrie, puisqu'elle est d'ores et déjà aux mains des Druzes. Elle est aux mains des milices druzes, et alors Israël est protecteur des Druzes traditionnellement, parce qu'Israël a ses propres Druzes, notamment dans le Golan. Il faut bien se rendre compte qu'à l'heure actuelle, autant les Kurdes du Nord ont été un peu lâchés par tout le monde, et donc la Syrie a réussi à les réintégrer dans l'armée et à reprendre le territoire, donc il n'y a plus véritablement de Rojava autonome à l'intérieur de la Syrie. En revanche, la province de Souweida, les Syriens, ils peuvent pas y aller. C'est-à-dire que si jamais l'armée syrienne cherchait à faire une opération de reprise en main de Souweida, elle sera bombardée par Israël. Là-dessus, clairement, ça arrivera. Si jamais les Turcs, depuis Palmyre notamment, essayaient d'aider les Syriens à reprendre Souweida, là, ça va taper avec Israël. Et c'est pas impossible que ça arrive, hein, prochainement. Mais il n'est pas possible que ça n'arrive pas du tout aussi, que Damas joue la prudence, qu'Ahmed al-Sharaa soit plutôt un impérialiste revanchard type Franco, c'est-à-dire très, très prudent. Surtout qu'il essaie d'être dans l'amitié américaine, auquel cas donc vous auriez aussi un morceau de Syrie qui rejoindrait cette espèce de koinon justement dont je vous parle. Si la situation se calmait, Alors la Jordanie, c'est un petit peu plus compliqué, mais enfin la Jordanie, elle est quand même malgré tout, malgré l'hostilité qu'il peut y avoir, elle est en paix avec Israël depuis longtemps, donc il pourrait y avoir aussi un rapprochement de cet ordre-là, surtout si parce que en Jordanie, le côté islamiste, enfin surtout pour le gouvernement, les élites jordaniennes, côté islamiste de la Turquie, ça peut faire un petit peu peur. Donc vraisemblablement, ça pourrait aller vers ça. Après, bon, la grande question, je renvoie aux précédentes émissions que j'avais, c'est de savoir quelle serait la place prise par les Émirats Arabes Unis, Oman, le Yémen d'après, hein, puisque après l'influence iranienne, on peut espérer éventuellement que la région se calme. Donc difficile de dire que tout ceci s'étendrait au Koinon, mais enfin ça pourrait en tout cas être en paix et être une espèce de troisième joueur qui n'a pas envie non plus de basculer totalement dans une forme de domination turque. Donc je pense que, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit déjà, comme en fait à Yalta, c'est-à-dire pendant la Seconde Guerre mondiale, on voyait déjà le monde d'après se dessiner, c'est déjà un peu la guerre froide, hein, la guerre froide avant la guerre froide. Eh bien, alors que l'Iran est en train de se faire taper dessus, il y a d'ores et déjà la fracture du monde d'après qui est en train de s'annoncer entre donc cet espace qui trouverait sa frontière à peu près ici, en fait. Hein. Donc ça serait la frontière, elle serait là, en gros, hein, Liban et sud Druze de la Syrie, entre un espace qui serait avec volonté de domination turque et d'espace sur lequel Israël cherche à faire barrage pour se prémunir contre tout ça et en s'alliant en direction notamment donc de la Grèce, de Chypre, etc. Et sans doute peut-être en deuxième rideau d'ailleurs avec d'autres pays, puisque la France est très proche de la Grèce aussi. On a déjà protégé la Grèce contre les Turcs, hein, il y a 2-3 ans, quand il y a eu des tensions qui se sont très, très fortement justement renforcées. Donc on ne sera pas dans le Koinon naturellement, mais enfin ça peut être un lien aussi d'influence dans cette région-là. C'est pour ça qu'à mon avis, tous les calculs actuels pour favoriser, pour ne pas embêter le Hezbollah, me paraissent problématiques. Vous savez d'où ça vient, hein, il y a Malbruno qui en a reparlé l'autre jour, notre espèce de souplesse avec le Hezbollah. En réalité, c'est parce que ça permet à Rodolphe Saadé de la CMA-CGM, qui a aussi BFM TV, hein, je rappelle maintenant, d'avoir les contrats du port de Beyrouth. En étant pas trop méchant avec Hezbollah. Quand Macron était venu lors de l'explosion du port de Beyrouth, on avait dit, en gros, le Hezbollah avait dit, si vous parlez pas du désarmement du Hezbollah, vous aurez les contrats. Et donc, on ne s'y opposera pas, etc. Donc, ça a permis à CMA-CGM d'avoir les contrats. Mais du coup, on parle pas du désarmement du Hezbollah. Et moi, ça me pose un problème. Alors, évidemment, je connais la réelle politique. CMA-CGM, pour un pays comme la France, c'est un gros atout stratégique. Parce que c'est un des premiers armateurs mondiaux, que pour la France qui a la deuxième zone économique exclusive mondiale, avoir un géant de ce type-là, c'est stratégiquement nécessaire pour maintenir les liens maritimes, logistiques. Et pour avoir un géant comme ça, il faut qu'il ait des points d'appui et que donc il ait les contrats des endroits plutôt que ce soit les Chinois ou d'autres qui les aient. Et donc, dans ces cas-là, truc de réel politique, vous faites semi-copain avec le Hezbollah pour avoir ça. J'ai quand même un doute sur la validité du calcul à moyen-long terme. À court terme, c'était peut-être intéressant. À moyen-long terme, alors que l'Iran est en train de se faire effondrer, ça veut dire que le Hezbollah ne tiendra pas longtemps. Compter sur la sympathie du Hezbollah pour conserver les contrats à Beyrouth, à mon avis, c'est mauvais calcul. Donc je pense que tout ça a été très courte vue. Que ça n'empêchait pas, vous pouvez essayer de... Mais je sais pas, on aurait pu... Dans le contexte, à mon avis, il valait mieux rester dans de bonnes relations avec Israël. Et pour avoir plus de leviers dans le Liban d'après le Hezbollah, justement, pour conserver ces contrats-là, à mon avis, ça aurait été un meilleur calcul pour la France. Mais enfin, bon, ce qui a été fait, mais ça vous explique beaucoup de la position actuelle française, en fait, et pourquoi on ne le dit pas, tout ça, pourquoi on ne parle pas de désarmement du Hezbollah, etc. C'est pour ces histoires-là, voilà. Moi, j'ai tendance à penser que même sur le simple point de vue moral, pour le peuple libanais, ce qu'on fait subir et ce qu'est le Hezbollah, Faire tout ça pour avoir les contrats de Beyrouth, je suis pas sûr que ce soit l'intérêt de la France qui prime véritablement dans le sujet. Voilà. C'est ça mon petit souci avec cette histoire-là. Mais enfin, donc la France aura toujours des intérêts dans la région, sans doute, vraisemblablement, notamment à partir du moment où la France restera de toute façon une puissance mondiale et régionale surtout. Dans la Méditerranée, vraisemblablement avec d'autres pays d'ailleurs, hein, puisque c'est l'Europe d'après, mais enfin, comme je vous dis, l'Europe d'après, est-ce qu'elle sera en un ou plusieurs morceaux, je ne suis pas capable à date de vous dire que ce sera le cas. Mais de toute façon, donc cette région-là, en raison du déploiement de l'Empire pan-turc au lendemain de la guerre, sera une nécessité, ne serait-ce qu'en matière de containment de ça, et pour éviter que l'influence turque ne soit trop importante dans toute la Méditerranée, pour pas que la Méditerranée redevienne une mer ottomane, en fait. Hein, c'est ça, un peu l'idée. Petit mot, quand même, pour rappeler, pour ceux qui suivent pas, ou qui n'étaient pas là, qu'est-ce que c'est l'Empire pan-turc ? Et dans quelle position est la Turquie ? Alors, la Turquie, elle a une... je vais vous mettre... sur Turcophonie, on va mettre un truc comme ça, voilà. L'organisation des États turciques, voilà, vous avez là le Conseil turcique, c'est les pays de langue turque. Alors oui, il y a les Hongrois, parce que comme ils venaient de par là, à la base, c'est aussi une langue turque, mais enfin, c'est pas le plus important, je pense pas qu'il y aura une projection de l'Empire pan-turc hein, dans cette direction-là. Mais ça vous donne... alors, en fait, si on voulait rajouter, vous auriez sans doute probablement une partie du nord... du nord-est de l'Iran, là où il y a des Azéris qui seraient aussi dans cette langue-là. Vous aurez une partie du nord de la Syrie et du nord de l'Irak où vous avez des Turkmènes, puisque vous avez un gouverneur actuel du nord de l'Irak qui est turkmène. La Turquie s'en est d'ailleurs réjouie. Donc ça, voilà, c'est l'espace turc. Et donc, je pense que la Turquie cherchera à reformer cet empire pan-turc parce que, à travers diverses organisations notamment, elle essaie de se projeter dans cette direction-là. Sauf que, mais le problème de la Turquie, c'est que, on reviendra un petit peu sur l'histoire après, le problème de la Turquie, c'est que depuis le 19e siècle, ouais, depuis le 19e siècle, la Turquie est complètement coupée de cet espace-là par la puissance turque, par la puissance russe, hein, qui s'est installée dans le Caucase, en fait, dès le 17e siècle, et qui a coupé. Avant, vous aviez une relative continuité, si vous voulez, entre... Attendez, je vais essayer de vous le mettre comme ça. Vous avez une relative continuité. Alors, je rappelle hein, d'où ça vient, les Turcs. Les Turcs, c'est turco-mongol. Donc tout ceci est arrivé à peu près en même temps. Donc ça s'est déversé de par là. Vous avez eu les premiers Turcs, c'est les Turcs Seljoukides qui sont venus s'installer et qui ont en fait ensuite régné sur l'ensemble de cet espace-là. Hein. Vous avez eu le sultanat de Roum, ça c'était les Turcs aussi, et ensuite ils ont remplacé Byzance, puisqu'ensuite vous avez eu les empires ottomans qui se sont, mais à partir de là c'était les Turcs si vous voulez qui gouvernaient. Mais vous voyez, avec la Horde d'Or et avec les Mongols qui se sont déployés, vous voyez que tout ce qui vient d'Asie centrale, en fait, cet espace-là avait toujours, pendant tous ces siècles, conservé plus ou moins via les steppes une espèce de lien, voilà, c'était pas coupé, c'était un espace souple. D'ailleurs, très souvent, vous aviez un type qui était très fort et qui se mettait à en prendre un gros morceau, comme là, Tamerlan, par exemple, au 15e siècle. Et ensuite, à partir du 17e siècle, les grandes puissances qui se rétablissent sont, d'un côté, la Chine, et de l'autre, la Russie. Et à partir de là, vous voyez qu'ils sont allés grignoter sur cet espace, et que à la fin, c'est l'Empire russe et la Chine qui se partageaient totalement cet espace turc, en fait, hein, tout simplement. Or, donc, si vous regardez aujourd'hui encore, vous avez, qui est proprement turc, vous avez le Xinjiang, avec les Ouïghours, hein, qui sont des populations turcophones, donc ça, c'est ici, là. Et bien sûr, pour l'Asie centrale, c'est tous les alors, Kazakhstan, l'Ouzbékistan, Turkménistan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, tout ça sont des pays de langue turque. donc sont des cousins en fait des Turcs. Hein. Et vous savez qu'entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, il y a le slogan une nation, deux États, avec l'idée qu'en fait, ils ne forment qu'une seule nation entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Et donc en fait, le truc, c'est que tant que, il y a une grande puissance russe, relativement grande puissance, donc la puissance russe se maintient. Et tant que la Chine se maintient, naturellement, ces États-là, ils ont tendance à balancer plus ou moins entre la Russie et la Chine. Alors bien sûr, ils étaient entièrement dans la main de la Russie avant. Depuis la chute de l'Union soviétique, ils sont un peu à cheval entre la Russie et la Chine. La Chine a beaucoup d'influence en direction avec les routes de la soie, etc., notamment en direction de ces pays. Elle y a beaucoup investi, notamment. Donc influence partagée. L'influence turque, forcément, la Turquie n'a pas la même profondeur économique, etc. Donc, difficile de s'imposer là-dedans, juste parce que vous êtes nos cousins, hein, bien entendu. Mais, comme à la fin, je ne vais pas revenir sur le détail là-dessus, hein, vous savez, je considère que c'est des fondamentaux, mais comme à la fin de la confrontation mondiale qui arrive, la Russie s'effondrera, l'influence russe s'effondrera, et la Chine s'effondrera, et la puissance russe, et la puissance chinoise s'effondrera, et que probablement la Russie, comme la Chine, connaîtront d'importants démembrements territoriaux, comme chaque fois qu'ils se sont effondrés, vous allez avoir une libération de cet espace, voilà, où tout d'un coup, il n'y aura plus de véritable influence ni chinoise ni russe. Donc ça va libérer de l'espace. Et ça va permettre à l'influence turque de se déployer là-dedans. Je donne deux exemples, deux choses qui sont les exemples que j'ai déjà repris, mais vous allez vous en souvenir. Premier exemple que je vais vous donner, c'est l'Empire russe. L'Empire russe, le plus loin qu'il était allé, c'était là. Donc c'était en Pologne. Et après, tout le reste, il était bloqué par quoi ? Il était bloqué par l'Empire germanique au sens large, c'est-à-dire l'Allemagne plus l'Autriche-Hongrie, la Duplice, hein, c'est-à-dire l'ère de domination germanique, c'était ça. Et l'Empire russe ne pouvait pas aller plus loin. Il était bloqué par ça. Ok ? Bon. L'Empire russe a pu aller plus loin, c'est-à-dire s'étendre jusque à l'intérieur de l'Allemagne, en Tchécoslovaquie, jusqu'en bordure de l'Autriche, etc., et jusque dans les Balkans avec la Yougoslavie pendant quelques années, d'une certaine manière, comme semi-partenaire communiste, a pu aller jusque-là à la faveur de l'effondrement de la puissance allemande. C'est-à-dire que c'est l'effondrement de la puissance allemande qui a permis à la puissance russe de déborder jusque-là. Tant que la puissance allemande était là, c'était la puissance allemande qui tenait l'Europe centrale. L'effondrement de la puissance allemande a permis à la puissance russe d'aller jusque-là. Et inversement, depuis, la renaissance de la puissance allemande a repoussé la puissance russe loin. Hein, tout simplement. Autre exemple. La Prusse. La Prusse, pendant longtemps, depuis son apparition, c'est-à-dire début du XVIIIe siècle, ne pouvait pas espérer se déployer très fortement, devenir une puissance dominante en Allemagne, parce que ça la rapprochait de la France, et que le but de la France, depuis Richelieu, c'était de maintenir cette partie-là de le Saint-Empire romain germanique très 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 divisée. Multitude de petites principautés indépendantes pour éviter justement d'avoir un adversaire puissant sur son flanc. Quand on a eu un adversaire puissant à partir de 1870, ça s'est mal passé. Donc c'était un bon calcul. Donc la politique française empêchait ça. Et tant que la France était puissante, la Prusse a été contenue de son côté. Alors elle a pu s'étendre à l'est, hein, aux dépens de la Pologne notamment. Mais elle ne pouvait pas s'étendre en direction de l'ouest parce que la France l'aurait interdit. Donc c'était pas possible, d'accord ? À partir de quand la Prusse a-t-elle pu s'étendre en direction de l'ouest ? À partir de l'effondrement de la puissance française au lendemain des guerres napoléoniennes. Une fois que la puissance française a été rabaissée, fin de l'impérialisme revanchard français, la Prusse arrive à conquérir des territoires en Allemagne de l'ouest et ça prépare ensuite la construction de l'unité germanique sous l'égide prussien, qui a donc pris un demi-siècle à partir du moment où vous avez eu... vous êtes en 1820, la Prusse a ça en plus, et 50 ans plus tard, pile, vous avez l'Allemagne qui est l'Empire allemand qui existe. Voilà. Donc c'est ce qu'a fait la Prusse. Mais il a fallu d'abord que la puissance française soit affaiblie. Donc ce que je vous dis, c'est que ça va probablement être pareil pour la Turquie. La Turquie est une puissance qui voudrait se déployer dans cette direction-là, mais elle ne peut pas parce qu'elle est bloquée par deux gros. D'accord ? À partir du moment où les gros seront très fortement affaiblis, et probablement qu'ils perdront le contrôle d'une partie de leur périphérie, eh bien, vous aurez tout cet espace qui sera libre pour les investissements de la Turquie, le déploiement de la puissance turque dans cette région, surtout si elle est en plein dynamisme, et qu'au milieu, en plus, vous avez l'Iran, parce que la Turquie est vraiment bloquée par tous les membres du bloc eurasiatique, hein, la Russie, la Chine et l'Iran. L'Iran, bien sûr, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, quand on a refait le point sur l'histoire turque, que j'ai tenté de vous montrer ça, mais naturellement, le principal problème de l'Empire ottoman pour le déploiement en direction de la Turquie, c'est la renaissance de la Perse sous les Safavides, qui a commencé à bloquer et qui a repris à l'époque l'Azerbaïdjan et qui a ensuite empêché l'Empire ottoman. Vous voyez, ça a bloqué, après la frontière s'est établie comme ça. Ça a empêché l'Empire ottoman de partir en direction de l'Asie centrale. Et en fait, depuis 500 ans, c'est la présence de l'Iran qui empêche l'Empire ottoman de se déployer dans cette direction, enfin l'Empire ottoman, la Turquie, dans cette direction pan-turque. Pendant longtemps, ça a été l'Empire ottoman. Donc si vous avez simultanément, et ça va être le cas à la fin de cette guerre, de la guerre en Iran en particulier, et de la guerre mondiale en général, si vous avez un affaiblissement en la fois de l'Iran, de la Chine et de la Russie, le premier bénéficiaire de tout ça, peut-être le deuxième, parce que le premier c'est les États-Unis, mais le deuxième bénéficiaire de tout ça, c'est la Turquie, parce que la Turquie perdra le verrou iranien et verra s'ouvrir l'espace en raison de l'affaiblissement de la Chine et de la Russie. Et donc elle s'étendra en direction de ça. Je ne dis pas que ça veut dire que l'Empire pan-turc, au lendemain de la guerre, vous aurez un Empire pan-turc. Bon, et surtout que si on n'est pas sur des opérations militaires très fortes qui amèneraient l'armée turque à se déployer en Asie centrale pendant la guerre, il n'y a pas de raison que ça se fasse vite. Ça se fera plutôt comme ça a été fait sous Bismarck ou dans les années qui ont suivi, dans les décennies qui ont suivi, mais c'est surtout sous Bismarck. Donc, à la limite, ça pourrait aller un peu plus vite, parce que si Erdogan est pressé, mais enfin, il va se faire vieux quand même, ça va être compliqué. Ça serait progressivement, avec la création d'institutions internationales, l'extension de liens et tout via l'Azerbaïdjan, désormais que le corridor vient d'être fait, hein. Maintenant vous avez un corridor avec le corridor Trump, désormais vous avez continuité territoriale depuis la Turquie jusqu'à Bakou, hein. Donc à partir de là, jusqu'à Bakou, ça veut dire via la mer Caspienne en direction de ça. Jusqu'ici c'était pas possible, hein. Vous aviez l'Arménie qui est bloquée entre autres au milieu, l'Arménie soutenue à la fois par la Russie et par l'Iran, donc c'était la Russie et l'Iran qui véritablement bloquait, coque bloquait même, la Turquie en l'empêchant d'aller en direction de l'Asie centrale. Toute la stratégie d'Erdogan ces dernières années, ça a été de rétablir ce corridor pour pouvoir à nouveau se projeter dans ce sens-là. Il a réussi à le faire. Et alors si en plus de pouvoir se projeter dans ce sens-là, l'Iran, la Russie et la Chine tombent ou sont affaiblis, ben forcément ça va ouvrir ça. Et donc dans les années, décennies qui suivront, vous allez avoir un considérable renforcement de la puissance turque, puisque vous arriverez à une Turquie qui régnera comme ça sur une espèce d'espace qui comptera plus de 200, quasiment 300 millions d'habitants. Donc il faut imaginer Israël forcément en face d'une Turquie qui sera comme ça et qui peut se déployer très largement dans ce sens-là. Vous n'avez pas envie de les avoir sur votre frontière. Et donc, on voit d'ores et déjà, le Moyen-Orient de demain, en fait, il sera dicté par ça, par cette opposition, et derrière les États arabes qui essaieront de faire leur vie, probablement en soutien de ce qui restera de l'Iran, parce qu'il n'est pas impossible qu'une partie de l'Iran soit bouffée par les Turcs, notamment la zone azérie, là, comme ça, pour qu'ils arrivent jusque par là, hein, et que leur contrôle sur la mer Caspienne, ou sur la moitié de la mer Caspienne, soit assuré. Voilà ce que je pense qui sera le monde d'après. Ça dépendra en partie de la façon dont les choses vont se structurer pour la guerre en Iran même. Mais a priori, voilà, je pense que c'est dans ce sens-là que ça va évoluer. Je me dis que c'était bien d'en profiter pour faire ce petit point. Bien, alors je vais aller voir chez le. Alors je vais d'abord peut-être dire bonjour aux nouveaux parce qu'on a des gens qui se sont qui nous ont rejoints durant la semaine passée. Je vais aller voir ici. Et après, j'irai voir les messages de notre cher Iruma. Et s'il y a eu des questions de dons pendant l'émission, parce que j'ai oublié de dire, mais si vous faites des dons pendant l'émission, je réponds pendant l'émission. Pour les autres, il y aura, pour les souscripteurs, il y aura les souscripteurs de rang maître, le live privé des abonnés qui suivra, et au cours duquel je répondrai, comme je le fais d'habitude, à 20-25 questions, ça dépend. Mais enfin, ça fait un petit moment d'émission en plus, hein. Pour ceux qui veulent plus de contenu, vous pouvez aussi, c'est aussi à ça que servent les souscriptions, bien sûr, il y a beaucoup de contreparties. Alors, nous disons bonjour à qui nous ont rejoint, à Pauline, à Maximilien, à Nico KMR, on remercie Matt et LP qui ont fait grimper leur abonnement, c'est gentil. LFC Chiesa qui nous a rejoint par abonnement directement comme maître, on le remercie. Goutatou qui s'est abonné également. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir rejoint. Il n'y a eu personne d'autre sur Tipeee, je crois. Et maintenant, que nous dit l'Iromissime? Ah oui, je vous rappelle qu'il faut commenter la vidéo, le commentaire qui est le plus liké, en particulier c'est vrai pour les gens qui ne sont pas souscripteurs, sera celui que je lirai, éventuellement c'est une question, j'y réponds à l'émission suivante. Sans les USA, Poutine fera de l'Europe une bouchée, l'Europe a besoin de gaz et de pétrole et agit en spectateur avec du blablabla comme une frivole. Et attend que Trump fasse tout, alors que l'Iran n'a pas le droit de bloquer les eaux maritimes internationales. Pauvre Europe, la langue plus longue que le bras. Oui, malheureusement, c'est vrai. Thomas Pariante, Fabuli no Jutsu, être un quart d'heure en avant pour feinter les rageux. Oui, j'étais pas véritablement un quart d'heure en avance, encore une fois, il y a eu un petit... Voilà. Et bien sûr, ah oui, ça, tu vois, j'allais l'oublier encore. Je rappelle que nous avons notre congrès annuel. Celui de l'année dernière s'était tenu à Paris, celui de cette année se tiendra à Toulouse. On n'a pas encore la salle, l'ami Iruma est en train d'en chercher une avec d'autres copains. Mais ça sera donc nouvelle convention avec trois thèmes qui seront traités. Je vous présenterai, alors on vous présentera la revue historionomique, la revue d'histoire théorique, qui est notre revue académique avec laquelle on va chercher à informer le milieu académique on fait le basculement en fait, ça devient une science avec des gens qui ont un paradigme et qui s'entendent dessus et qui en parlent et qui font des articles pour approfondir. Donc moi je parlerai de ce que je publie dans le premier numéro, qui est l'article par lequel j'unifie l'ensemble des différents modèles que j'ai fait jusqu'à maintenant, avec un mécanisme fondamental qui est le phénomène de l'homogénéisation. Ceux qui veulent déjà avoir une petite idée peuvent aller voir l'émission que j'avais fait avec Pierre-Yves et Hugo sur leur chaîne il y a un mois à peu près. Thomas viendra nous parler de l'historionomie de l'Israël antique pour montrer que le modèle de la construction nationale s'applique à Israël de l'Antiquité. Et Mathieu viendra nous faire un compte rendu un petit peu de son très bel article qui montre que l'historionomie est applicable à l'histoire de l'art. Et ça aussi, toujours le but d'ouvrir de nouvelles perspectives. C'est exactement ce qu'on cherche à faire avec cette revue académique. Donc, fear of missing out. L'inscription, c'est 50 euros avant le 20 mai, 70 euros ensuite. Ça comprend les viennoiseries, le café et le déjeuner, comme on avait fait la dernière fois. Vous avez le déjeuner, c'était vachement sympa. C'était un très très bon moment qu'on avait passé. Donc, n'hésitez pas à venir. Il y aura une séance de dédicace aussi. Faut que je commande des bouquins pour les avoir. Donc, vous avez l'adresse mail. Mais sauf que je suis en train de lire bêtement mon truc et sans vous l'afficher. Donc attendez. Je vais enregistrer l'image et je vais essayer de vous l'afficher. Je vais vous mettre ça là. Parce que je lis comme si vous le voyez alors qu'en fait ça vous le voyez pas. Je suis bête. Stupid of me. Alors, ça marche pas. La dernière fois ça avait marché. Voilà, allez, je vous l'affiche, voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, donc c'est à Toulouse. Alors pour tous ceux qui n'avaient pas pu venir notamment à Paris parce que ça faisait trop loin, si vous êtes dans la moitié sud de la France, ça vous fera plus près. C'est aussi l'idée, on essaiera de le faire voyager un petit peu de fois en fois. Donc inscrivez-vous rapidement, notamment parce que ça nous aide à véritablement savoir quelle est la taille de la salle qu'il nous faut. On table sur un peu moins que ce qu'il y avait à Paris, parce que naturellement on sait que Paris ça attire du monde, puis il y a plus de monde. Mais peut-être qu'on se trompe, donc on aimerait autant le savoir vite. Donc oui, du coup les inscriptions sont ouvertes. Il y a l'adresse mail. Allez-y. Et Hiruma vient de vous mettre le lien dans le chat. Voilà, parce qu'il y a le... Ouais, il n'y a pas le site internet sur l'affiche. Du coup, il y a l'adresse mail, mais il n'y a pas le site internet. Donc, je ne sais pas si ça serait bien de le rajouter pour la prochaine fois. Mais enfin, voilà, véritablement, c'est important, donc précipitez-vous, véritablement, si ça vous intéresse. Pour l'organisation, ça nous aidera. Qu'est-ce que je faisais ? Non, je voulais sortir de là. Voilà, bon, je vais le laisser afficher comme ça. Pendant ce temps, moi je vais lire la suite de ce que m'a dit l'ami Hiruma. Un autre don de parrain de Thomas, merci. TLDR, y a rien eu. Du coup, live Fabry Gaming sur Crusader King 3 où tu roleplays Abdallah de Bourgogne et tu formes le califat français. Il faudrait le faire, ça. Ouais, ça serait marrant. Ça fait partie des nouveaux formats que je pourrais lancer. Question choix, est-ce qu'il revient plus Léo ? Léo est très occupé. Léo, il fait plein de trucs. Léo, il fait tous les shorts que vous voyez passer sur la chaîne. Léo, il essaie de déployer mon activité et l'activité astronomique dans d'autres directions également, sur des conférences ou ça. Donc, du coup, Léo a beaucoup de boulot. On est toujours aussi lié, toujours dans le travail, simplement, voilà, ça, il s'est recentré sur d'autres types d'activités que la réalisation. On prépare aussi d'autres nouveaux formats vidéo un peu différents qui seraient peut-être plus grand public. On est en train de voir ce qu'on peut faire là-dedans parce que pour le coup, ça demande beaucoup de travail. Et puis Léo veut vraiment faire des trucs très quali, donc voilà. Donc effectivement, Léo est pas là. Faudra lui demander de venir faire un coucou. Dans quelques temps, mais voilà, Léo, il est comme Obi-Wan Kenobi, il est en arrière, son fantôme bleuté. Il faudrait faire un truc d'ailleurs, faudrait que j'arrive à faire un truc qui puisse faire une insertion de Léo, notamment le Léo qui dit pousser, parce que c'est très important, et que je ne sais pas si vous avez bien poussé ce soir. Et de toute façon, si vous revoyez tout ça en replay, n'hésitez pas à pousser. Et encore une fois, n'hésitez pas à diffuser, vraiment partager sur vos réseaux sociaux les formats flash quand ça vous intéresse, parce que c'est des petits trucs. Et ça peut attirer l'attention des gens, voilà, se dire « Ah tiens, j'ai vu ce mec dire ce truc intéressant voilà. », plus que de balancer des gros lives, parce que ça, je comprends que ça passe pas forcément. Voilà donc ce que j'avais à vous dire ce soir. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à tout de suite à nos chers souscripteurs dans le live privé des abonnés. Je salue tous les autres. À bientôt pour de nouveaux formats. Vous laissez pas faire.